Le retour vers le passé nous éclaire considérablement sur ce qui a été oublié, qui nous permet de comprendre un petit peu ce que liberté veut dire.
Les brigades internationales.
Camarades, que vous soyez espagnol, anglais, américain ou chinois, nous ne faisons qu'un parce que nous aspirons à la même chose. Une société juste et égale. Vous devez nous rejoindre. No pasarán. Ils ne passeront pas. No pasarán. No pasarán.
Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la guerre en Syrie, revient systématiquement l'évocation de la guerre d'Espagne. Les origines des deux guerres sont pourtant bien différentes. La guerre d'Espagne a commencé par un coup d'état militaire d'extrême droite dirigé contre une république faible, désordonnée, mais légitimement élue. Ce n'est pas précisément l'image que donnait le régime des Assad à Damas. En Espagne, comme en Syrie, une coalition, passablement disparate, tente de faire face à une puissance militaire supérieurement armée. Certes, et elle fait appel à des volontaires venus d'un peu partout, prêts à rompre avec leur monde, à mourir. Mais on ne sache pas que les motivations de ceux qui larguent les amarres d'aujourd'hui pour la Syrie ressemblent beaucoup à celles des jeunes de 36-37 qui, généralement pilotés par l'international communiste, allaient combattre en face à face contre les fascistes. L'histoire de ces 35 000 garçons et parfois filles, issus d'une cinquantaine de pays d'origine, est suffisamment complexe pour être étudiée en soi, sans trop de comparaisons qui faussent l'interprétation. D'autant qu'ont émergé de nouvelles archives les concernant, notamment en ex-URSS, et de nouveaux chercheurs. La tutelle communiste qui s'exerçait sur l'histoire de leur aventure s'est levée. L'histoire des brigades internationales recommence.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Michel Lefebvre, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Auteur seul ou avec d'autres comme Rémi Skoudelski de plusieurs livres sur les brigades, grand collectionneur d'images, de photographies. Ce qui m'intéresserait peut-être plutôt, c'est que vous nous disiez qui se cache derrière Michel Lefebvre, parce que Jean Lebrun, Michel Lefebvre, c'est extrêmement banal. Mais dans votre cas, Michel Lefebvre, c'est le nom de votre mère, Lefebvre, mais...
Alors, évidemment, si j'écris et si je collectionne autour de la guerre d'Espagne, c'est parce que je suis le fils d'un Espagnol. Je porte le nom de ma mère et non pas le nom de mon père, qui était Mariano Peña Hernando, communiste espagnol, qui a fait toute la guerre, ensuite la résistance en France, retour en Espagne, prison, enfin parcours assez fascinant.
Et haut responsable de la clandestinité espagnole en France, le prédécesseur de Georges Samprin, Yves Montand, dans le film de René, La guerre est finie.
Voilà, c'est-à-dire
que... C'est ça le climat de votre jeunesse.
Voilà, mon enfance, c'est La guerre est finie, les gens qui fabriquent des faux papiers, qui bricolent des voitures pour y cacher des tracts, qui parcourent Paris pour trouver des lettres et en faire des journaux clandestins. C'est l'image de ma jeunesse. Et bizarrement, quand mon père est mort... elle est remontée en 1989, elle est remontée très très fort et j'ai commencé à collectionner et à réfléchir, à apporter ma pierre à l'histoire de la guerre d'Espagne.
Je suis quand même déçu parce que vous accueillant, vous étiez en moto, vous n'aviez pas le casque aux couleurs de la République espagnole, le drapeau de la République espagnole pour les anciens brigadistes et tous les combattants d'Espagne, c'est sacré.
C'est vrai, j'ai en général un casque aux couleurs de la République espagnole, ce qui, quand je vais au consulat d'Espagne... est un peu curieux pour les gardes civils qui sont là.
Revenons, si vous le voulez bien, Michel Lefebvre, à l'été 36, la République espagnole est bousculée par le coup d'État de Franco, venu du Maroc, espagnol, avec ses combattants morts, comme on disait à l'époque. La République espagnole est isolée. Dans les premières semaines, l'URSS ne propose pas de la soutenir militairement. Elle se tourne vers le nouveau gouvernement de Front Populaire de Léon Blum, mais celui-ci, paralysé par ses accords à l'intérieur avec les radicaux, par la pression britannique qui ne veut pas qu'il y ait intervention, ne va pas non plus soutenir militairement la République. Menacée.
C'est vrai que ça reste pour moi et pour d'autres une espèce de tache sur ce Front Populaire. Il y a un parallèle qui est pour moi définitif, c'est... ces diplomates espagnols viennent à Paris pour tout simplement demander que les accords que la France et l'Espagne avaient signés soient respectés, c'est-à-dire qu'on leur donne les armes qu'ils avaient, auxquelles ils avaient droit. Le gouvernement populaire ne l'a pas fait. effectivement emberlificoté avec cette alliance avec les Anglais qui avaient extrêmement peur de ce camp républicain, alors que de l'autre côté, les franquistes ont été voir Hitler, lui ont demandé des avions pour transporter les troupes marocaines sur le continent, et là, Hitler, il n'a pas hésité une seconde, et là, c'est joué la guerre d'Espagne.
Septembre-octobre 36, l'intervention de Hitler et de Mussolini, qui, eux aussi, avaient signé, en principe, un texte sur la non-intervention, apparaît patente, et du côté français, on va, dorénavant, pratiquer la non-intervention relâchée, c'est-à-dire laisser passer beaucoup d'armes.
C'est vrai, c'est vrai, c'est l'honneur du gouvernement de Léon Blum, en particulier de Pierre Cotte, et évidemment de ce personnage dont on reparlera par la suite, Jean Moulin.
Son directeur de cabinet au ministère de l'Air à l'époque.
Qui est au cœur de ce trafic vers la guerre d'Espagne, à travers la frontière, en particulier d'armes soviétiques, puisque les armes soviétiques vont traverser la France, arriver en bateau à Oua, vont traverser la France, et les brigades internationales vont être recrutées en France et vont être transférées en Espagne, à partir de la France évidemment.
Novembre 36, la situation pour les républicains espagnols est néanmoins dramatique, ainsi que l'explique ici un ex-colonel français brigadiste, devenu général après la guerre, le général Vincent. Puis ensuite, on entendra la voix reconnaissable, ô combien, d'André Malraux.
Morts et légionnaires s'infiltraient dans Casa de Campo, le bois de Boulogne de Madrid, et menaçaient la cité universitaire. L'aviation italienne bombardait la capitale espagnole, tuant femmes et enfants. Le général Miaja, président de la Junta de Défense, avait à lutter à la fois contre l'assaillant et la cinquième colonne qui essayait d'intervenir dans le dos des combattants et de ruiner le moral de la population. Dès son arrivée, la première brigade internationale reçut l'ordre d'être en position à midi dans la cité universitaire, le long du Manzanares, et de s'opposer coûte que coûte à toute progression de l'ennemi.
Le sol commençait à trembler sous un autre grondement sourd qui était l'arrivée des premières brigades internationales et des premiers régiments véritablement organisés d'Espagne. Pour la première fois, en face de l'ancien désordre, commençait l'ordre. L'ordre qui montait vers ce Madrid, qui signifie maintenant nos Pasaran, beaucoup mieux que ce mot lui-même.
Commençait l'ordre, on peut retenir ce mot, on y reviendra peut-être à plus d'une reprise. Dans cette émission, Michel Lefebvre, c'est une conférence de propagande de Malraux à Columbia University en 1937. Il a dirigé une escadrille aérienne qui n'était pas stricto sensu des brigades internationales dont on va parler. Il y avait aussi des miliciens volontaires qui venaient de loin et qui s'engageaient dans d'autres groupes militaires que les brigades internationales.
Absolument. C'est-à-dire que ces deux extraits nous parlent de l'intervention des brigades internationales à Madrid en novembre, et il s'est passé avant trois mois de résistance au coup d'État, et pendant ces trois mois, ceux qui se battent sont des milices organisées par les différents partis politiques, anarchistes, communistes, les milices des syndicats.
Et le PUM.
Et le PUM également.
Le parti trotskiste, enfin. Parti ouvrier, marxiste.
Disons, pas trotskiste, on ne peut pas qualifier le PUM de trotskiste, c'est un parti anti-stalinien. Et donc, dans ces différentes milices, il y a des volontaires étrangers. Soit ils étaient déjà en Espagne, puisque l'Espagne avait accueilli beaucoup de réfugiés antifascistes. Soit ils sont venus pour l'Olympiade ouvrière. Soit ils se sont précipités en Espagne pour s'engager dans les milices. Dans les milices anarchistes, par exemple, la plus célèbre, puisqu'il y a aussi des femmes, c'est Simone Veil, qui en fera un récit fascinant. Il y a évidemment l'autre volontaire très célèbre, qui est Orwell, qui ne va pas dans les brigades internationales, mais dans les milices du PUM.
Orwell, qui a inspiré le film de Ken Loach, sur lequel, si vous le voulez bien, on reviendra un peu plus tard. Les volontaires qui se portent au secours d'une cause. Depuis le milieu du 19e siècle, c'est un vrai phénomène autour de l'unité italienne. Il y avait les Garibaldiens pour l'unité italienne, il y avait les Zouaves pontificaux, il y en a eu jusqu'à 10 000 de 25 nations pour défendre les États du Saint-Siège. Mais vous remontez plus loin, jusqu'à la guerre de Sécession.
C'est pour ça que la comparaison avec Daesh me déplaît un petit peu, parce que des volontaires étrangers, c'est pas du tout quelque chose qui est inventé avec la guerre d'Espagne. Effectivement, il y a des Canadiens français, des Québécois, pendant la guerre des Sécessions, qui s'engagent au nom de la liberté, Et puis, il y a aussi la Première Guerre mondiale. C'est fondamental, ce grand affrontement terrible. Il y a là encore ces Italiens, ces terribles Italiens qu'on retrouvera en Espagne. Ils s'engagent dans une légion garibaldienne. Il y en a 3000. C'est quand même pas rien. Il y a même des centaines de latino-américains qui vont venir en France se battre. Et, cerise sur le gâteau, des Américains qui viennent se battre pour la liberté sur le continent, en avance sur le contingent américain qui interviendra en 17, et qui, c'est un petit parallèle avec Malraux qui m'amuse, ils arrivent pour créer une escadrille qui s'appelle l'escadrille Lafayette. Ils ont acheté des avions, ils les ont mis sur les bateaux, ils les ont amenés en France, ils les ont montés, et ils se sont battus aux côtés des Français et des Alliés dans la Première Guerre mondiale.
Les Américains, avant même l'engagement du président Wilson pendant la Grande Guerre, et voici premier témoignage d'un brigadiste, un brigadiste américain justement, engagé lui en 1936, il s'appelle John Owen.
I grew up into the depression of the 30s in the United States.
J'ai grandi au moment de la crise.
I met other people in young people in my circumstance and they were also had many questions.
À ce moment-là, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui comme moi avaient été sans travail et qui comme moi se posaient plein de questions.
Qui avait la réponse?
These were people, radical people, called themselves communists.
Ces gens-là étaient des radicaux, des communistes.
And they explained that it was the nature of the society that we lived in that caused the unemployment.
C'était la nature même de la société dans laquelle nous vivions qui était la cause du chômage.
Est-ce que les jeunes Américains à l'époque avaient envie de se battre? Nous, on a l'image de Ernest Hemingway. Est-ce que tout le monde était comme ça?
Well, perhaps I don't know if Hemingway was an example. I think the fact that there were over 2,700 young American people, men and women, that went as volunteers to help the Spanish Republic proves that there were many young people that thought there were injustices that need to be corrected.
Je ne sais pas si Hemingway était un exemple pour les jeunes Américains. Ce que je sais simplement, c'est qu'il y a eu quand même 2700 jeunes Américains qui sont allés là-bas pour se battre.
Aux questions de Daniel Mermet, c'est un extrait de Là-bas, si j'y suis, John Owen répond avec cette formule de Paul Vaillant-Couturier, le militant communiste français, c'est un malheur d'être jeune dans un pays qu'on croit riche et démocratique. C'était des gens très jeunes qui partaient. 15 à 57 ans, avec une moyenne d'âge de 27 ans pour les Français. 28 ans.
Oui, mais dans la mesure où les recruteurs leur demandaient d'avoir une formation militaire, ça a un petit peu augmenté la moyenne d'âge. C'est-à-dire que c'est pas des gamins entre 15 ans et 20 ans, c'est des gens qui sont des militants confirmés, qui ont pour certains une formation militaire. Il y aura d'ailleurs des officiers français très importants qui seront dans les brigades internationales. Il y en a un dont le destin me plaît beaucoup, qui s'appelle Poutz, qui terminera colonel dans la division Leclerc, et qui est donc dans les brigades internationales. C'est un Alsacien, et ensuite il est recruté dans la division Leclerc, et il sera dans la libération de Paris, et il mourra à Strasbourg.
De même que Roland Tanguy, qui sera le responsable que l'on sait de la libération de Paris. Pour l'essentiel, même s'ils ne sont pas tous communistes, ce sont des communistes, avec des cadres aussi, des partis communistes qui viennent temporairement ou longuement. Les Américains, plus de 2000, les Tchèques, 1000, les Hongrois, 500, les Suisses, 400.
Absolument, absolument. Ils perdront leur nationalité, tous ces Suisses, après la guerre.
Les Britanniques, 1800. Des Britanniques qui sont complexés par l'attitude du gouvernement britannique.
Absolument, absolument.
C'est d'ailleurs parmi les historiens britanniques qu'il y a les meilleurs historiens de la guerre d'Espagne.
Ça oui, parce pas qu'ils ne supportent pas leur position de leur pays à cette époque.
Et puis, les Allemands qui avaient déjà été obligés de s'exiler après la prise du pouvoir par Hitler, et les communistes allemands se sentaient peut-être aussi complexés d'avoir joué la division de la gauche face à Hitler au moment des grandes échéances électorales. Vous allez reconnaître ce chant qui vient des brigadistes allemands.
Wir im fernen Vaterland geboren, nahmen nicht halt. Wir im fernen Vaterland geboren, nahmen nicht halt, harten Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid.
Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade. Unsere Brüder sind Bauer und Prolet.
La marche de l'histoire.
Vorwärts internationale Brigade.
Jean Lebrun.
Die Fahne der Solidarité.
Sur France Inter.
Vorwärts internationale Brigade. Hoch die Fahne der Solidarité.
Avec Michel Lefebvre, nous parlons des Brigades internationales. Vous avez publié plusieurs livres, notamment d'images, de photos, autour de la guerre d'Espagne. Alors, de nouveaux chercheurs, votre compagnon de route, Rémi Skoudelski, de nouvelles archives, il y a celles de l'université Brandeis qui sont maintenant à New York University, il y a celles qui sont libérées par le dégel de l'URSS au début des années 1990, on peut poser un certain nombre de questions historiques, un peu franches, sur les brigades internationales, loin du mythe. Première question, Michel Lefebvre, c'est une question qu'on pose aussi sur la résistance française. Quelle a été l'importance militaire des brigades internationales ?
Alors, les historiens espagnols discutent encore de cette question. Ce dont je suis sûr, c'est que l'importance psychologique et propagandistique, en quelque sorte, en particulier dans l'engagement des brigades internationales sur le front de Madrid en novembre
36,
a joué un rôle énorme, qui a d'ailleurs beaucoup agacé les Espagnols, parce que dans le temps, la presse internationale apparaît comme le sauveur de Madrid, un certain Kléber. Ce n'est pas son nom, il s'appelle Stern. Il est à la fois autrichien, russe, c'est un agent soviétique et du Comintern, qui va ensuite être d'ailleurs disparaître en 1939 au Goulag. Et ça a beaucoup agacé les Espagnols de voir dans tous les journaux ce Kléber comme le sauveur de Madrid. Donc ensuite, il est évident qu'il y a d'autres victoires qui vont être exploitées de manière habile et à juste raison. C'est par exemple la victoire dans la bataille de Guadalajara des brigadistes italiens contre le corps expéditionnaire de Mussolini.
Février 37.
Voilà. Et là, c'est également une victoire extraordinairement symbolique. À part ça, je veux dire, d'un point de vue du nombre, les brigades internationales, c'est pas une goutte d'eau, mais c'est une partie des forces de choc espagnoles.
D'autant que l'armée républicaine se fournit, se grandit, se professionnalise à mesure que le temps passe, faut le dire aussi. Les brigades ont joué un rôle dans cette bataille terrible de l'hiver 37-38, la bataille de Teruel, qui s'est jouée dans un froid glacial, et qu'évoque ici deux frères espagnols, les frères Almodóvar.
Sans armes, sans munitions, on tenait tête aux franquistes, aux morts, aux Allemands, aux Italiens, aux Portugais, on tenait tête à tous. L'26 décembre 36, on a attaqué Teruel. Et on n'avait que deux mitrailleuses.
Quand Franco attaquait la Ciudad Universitaria, à Madrid, il a lancé un régiment de tanks. On n'avait pas d'anti-tank, on n'avait pas d'aviation. Vous savez comment on les arrêtait ? Avec des suicidaires, des volontaires, une ceinture de grenades, dans un trou et attendre que le char arrive. Et quand le char était sur eux, ils se faisaient sauter avec le char.
Tout de même, il arrive aux deux frères, Almodóvar, d'opiner différemment.
Alors, il y avait des armes d'un peu partout, ça il faut...
Il y en avait de chèques.
Il y en avait de chèques, il y avait... non, il faut pas... Il y en avait de françaises. Il n'en est pas passé beaucoup, mais il y en avait aussi. Non, non, ça c'est... Ça, il faut reconnaître, pour ce qui est de l'aviation, c'était l'Union soviétique et les tanks. Thomas, on n'aurait rien eu. Quand elle est venue. Parce que nous, sur le front de Madrid, au Guadarrama, là, quand on était sur le front del Pardo, là, il n'y avait pas d'aviation. Et eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les avions. Ils descendaient à 50 mètres à ras de mode sur les tranchées. Et nous, on était obligés de tirer avec les fusils, à tirer sur les avions, parce qu'on n'avait pas d'aviation, on n'avait pas de batterie anti-aérienne, on n'avait rien. Et les premiers avions qui sont arrivés, c'était les avions russes.
Alors, deuxième débat historique chaud, Michel Lefebvre, qu'a donné vraiment l'URSS de Staline ? Alors, de l'armement, jusqu'à quel point ? Des commissaires politiques et des consignes aussi, et jusqu'à quel point ?
On ne donne jamais rien dans une guerre. Et en particulier en termes de géopolitique, on ne donne rien. Les soviétiques ont vendu à la République espagnole, chèrement, puisqu'ils se sont emparés de l'ensemble de l'or espagnol, des avions, on parle de 300 ou 400 avions, des tanks par centaines, évidemment des fusils, etc., qui ont permis, qui ont sauvé la République espagnole, c'est parfaitement clair. Ces armes ont eu du mal à venir, elles sont venues par la France, comme je disais tout à l'heure, et elles ont coûté cher en argent et elles ont coûté cher politiquement. Parce que les Russes n'ont pas laissé leur armement aux mains de gens qui ne contrôlaient pas politiquement.
C'était l'international communiste qui dirigeait de fait les brigades internationales. Staline était partagé entre la volonté d'organiser la guerre à venir contre l'ennemi. Il voyait quand même bien où était l'ennemi. Et sa crainte à l'intérieur de possibles ennemis, parce que 37-38, ce sont les années de la terreur stalinienne, peut-être la pire, des immenses purges. Et les méthodes que les représentants de Staline utilisent en Espagne sont dures. A été mise en cause en particulier un Français, le grand commissaire politique André Marty, qu'on a surnommé le boucher d'Albacete. Albacete, c'était la capitale des brigades internationales, qu'on a accusé d'organiser une cour autour de lui et d'être d'une cruauté sans nom.
Moi, je suis toujours gêné par rapport à ces témoignages. Il y en a un qui est paru récemment d'un certain Sigmund Stein, paru au Seuil. C'est un témoignage tardif. L'historien qui commande derrière, Jean-Jacques Marie, prend un petit peu ce témoignage avec des pincettes. Moi, je suis très dubitatif sur ce vocable de boucher d'Albacete. Je trouve ça extrêmement injuste. D'abord, aucun historien sérieux, Rémy Skutelsky ou d'autres, ne dit ça. Je pense que c'est inventé par les doriotistes.
Et les partisans de Jacques Dariot, communiste dissident, maire de Saint-Denis,
voilà, et
qui disait partout qu'il faut interdire les départs pour l'Espagne et la radicalisation des communistes.
Voilà, qui a mené une lutte à mort contre les communistes sur ce thème-là. Et malheureusement, quand Marty est exclu du Parti communiste en
1952... Oui, parce qu'en 1953, il va être éliminé à son tour, 52.
Il est éliminé à son tour, comme beaucoup d'anciens brigadistes dans l'univers communiste. Et là, les communistes ne le défendent plus. Et donc, il y a une, je dirais, une double peine pour cet homme qui n'est pas sympathique du tout, tous les témoignages le montrent, mais qui n'est pas un boucher et qui fusillait pas les gens au petit déjeuner et qui n'a pas fait fusiller 500 personnes à Albacete, ce n'est pas vrai.
Puis dans une guerre, il ne s'agit pas de donner, Michel Lefebvre, il ne s'agit pas non plus d'être sympathique. Alors, on l'avait évoqué, le film de Ken Loach, on va y revenir, Land and Freedom, c'est un film qui a été inspiré par l'expérience de George Orwell, le grand écrivain prophétique qui avait choisi de rejoindre le POUM, ce que ne vous voulez pas nommer trotskistes, les communistes anti-staliniens. Quels ont été, grand débat historique, à mesure que les mois passaient, dans une tension grandissante, les rapports entre trotskistes, anarchistes d'une part, si on peut faire le rapprochement, et communistes brigadistes. On est ici dans le film de Ken Loach à un moment où s'affrontent dans une guerre de tranchées des antifascistes de deux bords. Et David, qui est venu d'Angleterre, parle à d'autres Anglais qui ont fait un autre choix que lui, Division Durruti, un nom anarchiste, contre Division Karl Marx.
Dans quelle milice est-ce que t'étais ?
Dans la division Karl Marx ! Et toi, t'étais dans laquelle ? La troisième ?
Non, connard ! Dans celle de Durruti, le meilleur !
T'es anglais ?
Oui, et toi ?
Et d'où est-ce que tu viens ?
Manchester !
Oh, putain, je suis de Liverpool !
Liverpool ? Qu'est-ce que tu fous là ?
J'en sais rien ! Pourquoi est-ce que t'es pas avec nous ?
Bonne question, et toi ?
J'en sais foutre rien ! Mais on n'est pas ennemis, on est dans le même camp !
On n'est pas ennemis, on n'est pas dans le même camp. C'est quand même une tragédie que vivent les antifascistes.
Alors là, dans
cette obligés soit de s'appuyer sur un état totalitaire, soit de s'opposer à lui. Je parle de Staline.
Dans cet extrait du film, on est à Barcelone, donc ce qu'on appelle le Puig de Barcelone, donc cette espèce de révolte entre les anarchistes et le POUM. Contre les forces gouvernementales, où les communistes sont évidemment très puissants. La fin de cet affrontement, qui va faire quelques centaines de morts, c'est en fait les ministres anarchistes qui vont venir à Barcelone pour dire aux gens d'arrêter de se battre et en particulier leurs troupes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a effectivement un problème autour du pouvoir, autour de plusieurs questions qui sont la militarisation des milices, c'est-à-dire est-ce que les milices vont devenir une armée autour de la collectivisation. Est-ce qu'il faut arrêter de collectiviser les terres et aller faire la guerre? Donc il y a des débats très violents là-dessus. Et évidemment sur la conduite de la guerre. Donc là, c'est une guerre dans la guerre, une guerre politique, qui va aboutir aussi, puisque les Russes vont en fait transférer leur technique de purge stalinienne en Espagne, sans beaucoup de succès d'ailleurs, à la disparition d'Andrés Nin, à la disparition d'un certain nombre de gens.
Et à la dissolution du POUM.
Et à la dissolution du
c'est
POUM.
C'est en juin 1937 quand même, il y a des anarchistes qui combattent jusqu'au bout. Organisés encore, parce qu'ils ont choisi l'ordre, comme disait André Malraux, d'une certaine manière. Tandis que les brigades internationales, en tant que telles, vont disparaître avant la fin de la guerre d'Espagne. Ça, on le sait peu. Elles vont disparaître fin 38, dissoutes sous la pression des démocraties occidentales.
C'est ça, c'est-à-dire que le gouvernement espagnol espère une énième fois qu'en faisant ce geste, ils vont obtenir une aide de la France et ils espèrent aussi que la guerre va arriver très vite. Et donc, ils font ce geste politique. Donc, en fait, les brigades internationales, pour une part, vont rester, c'est-à-dire qu'il restera environ 5000 soldats qui se battront jusqu'à la fin. Mais les Français, par exemple, quitteront l'Espagne.
Les Français, enfin le gouvernement français, Daladier, maintenant, ne va pas donner un asile facile à tous les brigadistes dont la dissolution de leurs unités pourrait les amener à traverser le pays. La dernière grande manifestation du Front Populaire, c'est le 12 novembre 38 pour le retour d'un convoi de brigadistes et ça a lieu gare d'Austerlitz. Un haut lieu, la gare d'Austerlitz, pour les brigades internationales. D'ailleurs, il va y avoir un monument bientôt, gare d'Austerlitz.
Absolument, en octobre. En octobre, une sculpture va être inaugurée. À la guerre d'Austerlitz.
Et c'est Jacques Chirac qui a donné le branle à la reconnaissance des brigadistes français au titre d'anciens combattants.
Alors,
c'est pas Mitterrand?
Non, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui, une fois de plus, fait un geste où on ne l'attend pas. C'est qu'année 96, donc anniversaire de 1936, a une double importance en France et en Espagne. En Espagne, le gouvernement va offrir la nationalité espagnole aux brigadistes qui se sont battus, comme ça l'avait été promis par la Passionaria et par Juan Negrín quand ils sont partis. C'est un geste très fort. Et Jacques Chirac va proposer le statut d'ancien combattant pour les anciens brigadistes français. À l'époque, il en reste 150. Ce n'est pas simple, à la fois d'un point de vue militaire et même dans son propre parti, de faire avancer cette idée-là, mais il y tenait.
Merci à vous Michel Lefebvre, vos livres, l'un avec Rémi Skoudelski qui a publié une somme sur les brigadistes français, le dernier Espagna Grafica sur la guerre d'Espagne, c'est toujours un livre de photos. Hein, c'est,
Guerra Grafica,
c'est votre grande passion. Votre grande œuvre, nous le reconnaissons comme tel, Fabrice Desmaz à la technique, Jacques Sigal à la réalisation, Ilinka Negulesco, Maïna Cigar Grasse et Franck Olivard pour la préparation avec Frédéric Martin. Superbe titre pour votre émission, Mathieu Vidard.
Ça vous plaît?
Ah oui, dites-le.
Ah ben je ne sais pas, quel titre vous avez sous les yeux?
Moi j'ai plusieurs dernières nouvelles de Néandertal.
Voilà, dans la grande famille humaine, donc on va s'intéresser au cas particulier de l'homme de Néandertal.
Sera qui est beaucoup plus intelligent encore qu'on ne le croit. Et c'est le fil des découvertes qui le prouve.